Voilà, je suis heureuse de pouvoir vous présenter donc Esther et Guillem Faré, qui sont catalans, espagnols, et qui sont communautaires, qui sont dans une de nos missions en Espagne, et qui habitent pas loin de Valencia, là où le Saint-Père donc a réuni la cinquième rencontre internationale des familles. Donc cette rencontre a été initiée par le pape Jean-Paul II il y a 5 ans. Et cette année, donc, c'était en Espagne. Donc ils vont vous raconter, Guillaume est journaliste, et ils vont vous témoigner de ce qu'ils ont vécu et du message du Saint-Père.
C'est bon pour que vous ayez une idée générale. Une rencontre mondiale des familles, c'est à peu près comme des JMJ, hein, les Journées mondiales de la jeunesse, mais pour les familles. Alors il y a les week-ends, que c'est souvent quand on se rencontre avec les Saint-Pères. Et donc là, c'est beau parce que l'année dernière, c'est Benoît XVI qui s'est rencontré avec le jeune à Cologne, en Allemagne. Et cette année, il s'est rencontré avec les familles en Espagne. On va voir qu'est-ce qu'il va rencontrer l'année prochaine. Alors, c'est le week-end avec les Saint-Pères. Et quelques jours avant, il y a toujours un congrès, une rencontre, plus là on l'appelait le congrès théologique et pastoral, dans lequel on réfléchit, on pense, on a des conférences, des rencontres autour du sujet. Là, puisque c'était la rencontre mondiale des familles, donc tous les sujets allaient autour de la famille. Mais on va vous expliquer comment on a touché beaucoup de plans, beaucoup de questions, puisque la famille est vraiment au cœur autant des problèmes que des espérances, pas seulement de l'Église, mais de la société aussi, du monde. Un peu l'humanité, elle est concernée par les destins de la famille. Et là, les familles catholiques, les familles chrétiennes, nous avons vraiment un mot de vie et d'espérance à donner. Alors, il y a eu tous ces congrès. En même temps qu'il avait les congrès, il avait deux autres en même temps. Un pour les jeunes, pour les enfants, et un autre pour les personnes âgées. Hein? Le Saint-Père, il a dit des choses très belles des grands-parents, des grands-pères et des grands-mères. Hein? Et il y a eu aussi une foire des familles, c'est-à-dire il y avait un enceinte peut-être 3 ou 4 fois, 4 ou 5 fois plus grand qu'ici le cinéma de la forêt, avec 150 associations qui travaillent avec la famille et pour la famille. Vous aviez autant de ONG catholiques que des éditoriales, des livres, des journaux, de plein, beaucoup de choses, des communautés. Alors certainement que autant pendant les congrès que pendant les week-ends, on a constaté qu'on vit une époque sans inouïe. Jamais on s'était trouvé avec une circonstance comme celle-ci, dans laquelle la famille, elle n'est pas seulement attaquée, mais on perd même les conceptions les plus basiques de la famille. Par exemple, en Espagne, en France, ce n'est pas encore, mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver. En Espagne, on a promu une loi. On vient d'accepter, il y a quelques mois seulement, les mariages entre homosexuels, ce qu'ils appellent le mariage entre les homosexuels. Et maintenant, comme c'est difficile, si tu as des enfants, parce qu'ils peuvent aussi adopter, si un enfant il a un papa et un papa, il faut quand même faire la différence. Donc en Espagne, à partir de maintenant, dans les documents officiels, ça n'existe pas le père et la mère, mais les progéniteurs A et les progéniteurs B. Alors, Monseigneur Trujillo, que c'est le président du Conseil pontifical pour la famille, il disait que maintenant, au Saint-Père, il fallait l'appeler notre Saint-Progéniteur. Hein? Vous voyez à quel point on arrive. Hein? On n'arrive plus à comprendre, on n'arrive plus à voir ce qu'est la famille, mais pas la famille. Pas dans un sens, je dirais, théologique, moral, ce que l'Église dit qu'est la famille, mais la famille au niveau le plus naturel. Il ne faut pas oublier que la famille, c'est quelque chose qui nous vient de la création. Hein? C'est-à-dire, ça serait bête de dire qu'à partir de maintenant, les femmes ont une trompe, hein, comme les éléphants. Ça serait bête parce que c'est pas comme ça. Dans la création, telle que nous sommes faits, nous n'avons pas de trompe. La trompe, c'est pour les éléphants. Nous avons des mains et nous avons un nez. Hein. Il y a des choses que on peut pas changer parce que c'est donné comme ça par nature et par la création. Eh bien, la famille correspond à cette sorte de choses, si vous voulez. La famille, c'est quelque chose qui nous vient de la création, nous vient de la nature. C'est-à-dire qu'une famille, c'est un homme et c'est une femme qui, à cause de leur amour, décident de lier leur vie. Et de cette union d'amour, il y a la famille, il y a la vie qui naît, il y a les enfants et conséquemment, il y a l'éducation des enfants. Tout cela, c'est en crise actuellement, d'une façon particulière dans les pays d'Occident. On les voit aussi dans les pourcentages des divorces, on les voit aussi dans les pourcentages d'avortements. Aussi, on les voit dans tous les mouvements qui défendent l'euthanasie, c'est-à-dire de pouvoir tuer les enfants malades ou les vieillards malades parce qu'ils nous gênent. Et Lourdes, c'est un lieu privilégié pour comprendre à l'intérieur de la croix et de la souffrance, mais comprendre aussi la grâce qu'on a dans la souffrance, c'est le mystère de la croix. Et nous, en tant que chrétiens, nous le comprenons bien, mais dans le monde, c'est un scandale. C'est pour ça qu'on veut effacer les enfants malades et les personnes âgées malades, parce qu'ils nous gênent. On les voit aussi dans tout ce qui est la manipulation génétique. En Espagne, par exemple, aussi, il n'y a pas longtemps, on a approuvé une loi par laquelle on a le droit de concevoir un enfant, pas pour lui-même, mais pour pouvoir avoir des réchanges, des parties du corps de réchange pour un autre enfant qui serait malade. Hein, c'est-à-dire, j'ai un enfant malade, il a un problème au rein, il faut lui changer les reins, alors je vais créer un enfant, et quand cet enfant il sera né, je vais pouvoir lui prendre un rein pour le donner au premier enfant. Alors comme ça, j'aurai deux enfants, mais il y a un que je ne vais pas l'aimer par lui-même, mais que je vais l'utiliser. Il sera ce qu'il appelle un enfant médicament. Et un enfant pilule, on dit aussi. Hein. Donc vous voyez à quel niveau on est arrivé. On les voit aussi, par exemple, dans des questions démographiques. Il y a, en France, on n'arrive pas à avoir les enfants nécessaires pour assurer la régénération générationnelle. Hein. On a, on pourrait dire, la chance de l'immigration qui sauve un peu cela, mais vous, les Français, vous ne faites pas assez d'enfants. Et nous, les Espagnols, non plus. Alors, on a bien constaté la difficulté, la crise dans laquelle se trouve la famille. Et pourtant, le message qui est resté de tous ces jours, ce n'est pas un message de découragement, mais un message d'espérance et un message de joie, et je dirais même un message de force. De ne pas avoir honte de pouvoir annoncer la famille et la famille chrétienne comme une bonne nouvelle. Nous, chrétiens, nous avons une bonne nouvelle à donner au monde. Et cette bonne nouvelle, elle est Christ. Elle est qu'il nous a aimés, qu'il a donné la vie pour nous, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Mais aujourd'hui aussi, la bonne nouvelle que nous avons à donner, c'est la famille. Par exemple, combien de vous il y a que ça fait 25 ans qu'ils sont mariés. Alors, bravo. Bravo, parce que vous êtes une bonne nouvelle pour le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est marié depuis 50 ans? Ah oui, K.O. Bravo, bravo. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Parce que vous êtes une bonne nouvelle pour notre monde. On a besoin de témoignages comme ça, vous voyez. On a besoin de témoignages qui disent, depuis 25 ans, depuis 50 ans, je continue à aimer mon époux, je continue à aimer mon épouse. Est-ce qu'il y a des couples que ça fait moins d'un an qui sont mariés? Alors, bravo pour Christophe et Cécile. Parce qu'il faut aussi de couples, de jeunes qui disent on est prêt à engager notre vie par amour l'un vis-à-vis de l'autre et à donner la vie. Tout ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, un témoignage à donner. Xavier Lacroix, vous le connaissez peut-être, il est responsable, le professeur à l'Université de Lyon. Il a fait une conférence dans laquelle il disait, le Père Jean Gabriel, il avait fait référence au cours de la première messe, ici à la session de Lourdes, dans laquelle il disait qu'au premier temps de l'Église, les signes, ce qui apportait un témoignage particulier fort du Christ, c'était les martyrs parce qu'ils donnaient leur vie. Ensuite, ça a été les moines qui partaient au désert. Plus tard, ça a été les congrégations qui des charités. Vous voyez toutes les sortes de congrégations depuis Saint Vincent de Paul au 18e, 19e siècle. Aujourd'hui, c'est les familles qui avons une parole à donner au monde. Alors, je vais reprendre quelques phrases que le Saint-Père a données, qu'il apparaissait là, mais que je trouve que sont très importantes. Le premier, ça serait une citation de Jean-Paul II. On a eu la joie d'avoir Mgr Ziwich, le secrétaire de Jean-Paul II, qui a fait une conférence très très belle en reprenant tout l'enseignement de Jean-Paul II, de l'ancien Saint-Père, sur la famille. Et voilà une citation à lui. L'homme est devenu image et rassemblance de Dieu, non seulement à travers sa propre humanité, mais aussi à travers la communion des personnes que l'homme et la femme constituent dès le début. L'homme devient image de Dieu au moment de la communion plus qu'au moment de la solitude. Là, il y a quelque chose d'important. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la famille au niveau humain. Au niveau humain, au niveau naturel, la famille, elle est très importante. Mais sachez-le bien, qu'en tant que famille, vous faites présent l'image de Dieu. C'est-à-dire, vous rendez présente l'image de Dieu. Il y a une image très belle dans l'Église orthodoxe qui parle de la Sainte Famille comme la petite Trinité sur la terre. Et chacun de nous, famille, nous sommes appelés à devenir ces signes. À devenir, on pourrait dire, ces sacrements de la Trinité sur la terre. Ce sont des paroles très fortes qui pourraient, j'espère ne pas être hérétiques, mais qui pourraient approcher les mystères du mariage au mystère presque de l'Eucharistie. Parce que l'Eucharistie, c'est vraiment cette présence amoureuse de Dieu dans les pains. Et dans les vins qui deviennent le corps et le sang du Christ. Nous, époux et épouses, par notre amour, par notre don mutuel, par l'accueil des enfants et par l'éducation des enfants, nous sommes aussi un signe et une parole forte. Nous rendons, c'est pas seulement un signe, mais on fait vraiment présent Dieu au milieu de nous. Dieu au milieu de toute notre famille, de notre société, de nos communautés. Donc, en étant famille, on vit une dimension mystique. Ça veut dire que là, il n'y a pas seulement notre effort personnel, mais c'est aussi une grâce à accueillir et à demander. Et le Seigneur nous la donne. Dans ce même sens, le Saint-Père, Benoît XVI, il nous a dit que la famille comporte une vocation véritable à la sainteté. Le Concile Vatican II l'a dit très clairement, même si ça a été toujours dans l'Église, nous tous, nous sommes appelés à la sainteté. Je pense que ce que nous voulons faire, ce que nous désirons, c'est devenir saints. Même, je dirais, pourquoi pas saints de ces saints qui sont mis dans un autel. Est-ce que quelqu'un aimerait voir sa canonisation? Est-ce que vous accepterez d'être canonisé? Il y a quelqu'un qui accepterait être canonisé, là, publiquement, à Saint-Pierre de Rome? Oh, trop peu, on a besoin de plus de saints. Vous voulez pas ou vous croyez que vous pouvez pas? C'est peut-être la question, non? Eh bien, le Saint-Père vous dit, vous qui êtes mariés, vous qui êtes père et mère de famille, votre vocation, c'est une vocation à la sainteté. Alors, je crois que le Saint-Père, il se trompe pas dans ces choses-là. dont on peut le croire. D'autres paroles fortes. Il a une autre phrase qui est belle. La famille est un bien nécessaire pour le peuple, un fondement indispensable pour la société et un grand trésor pour les époux durant toute leur vie. Si l'Église demande, je dirais même exige, la fidélité, c'est-à-dire que le mariage il est indissoluble, c'est-à-dire qu'on ne peut pas couper le mariage, que c'est pour toute la vie, c'est parce qu'on est convaincu qu'au cœur du mariage, il y a un trésor. Dit le Saint-Père, la foi et l'éthique chrétienne ne prétend pas étouffer l'amour, mais le rendre plus sain, plus fort et réellement plus libre. C'est pourquoi l'amour humain a besoin d'être purifié et de mûrir pour être pleinement humain et pour être le principe d'un bonheur vrai et durable. Frères et sœurs, si vous voyez avec ceux qui vous entourent, très souvent ils vont vous dire « Oh, est-ce que la morale de l'Église ?» La morale de l'Église par rapport surtout à la famille et la sexualité. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser des contraceptions? Est-ce qu'on ne peut pas divorcer quand tu en as marre de ta femme? Les femmes n'ont jamais marre de son époux, mais l'époux a marre de sa femme. Alors quand tu en as marre, tu ne peux pas te divorcer. Et ils disent, ils ne comprennent pas la morale. Mais nous chrétiens, nous catholiques, nous devons bien comprendre. La morale, c'est l'expression d'une grâce, d'un don, d'un charisme que le Seigneur nous donne. On ne reste pas ferme sur toutes ces questions-là pour imposer un poids lourd sur nos frères et sœurs. On reste ferme sur tous ces points-là parce qu'on sait que c'est très difficile. On le sait. On sait que c'est très difficile. Mais on croit à la fidélité de Dieu. On croit à la grâce de Dieu qui s'est fait présent dans nos vies quand on a besoin. Nous croyons que si nous demandons au Seigneur de venir à notre secours, lui, il est là. C'est pour cela que nous pouvons maintenir une morale. Et vous voyez, il nous faut témoigner de cette fidélité à cette morale, de la fidélité à l'époux, à l'épouse, de la fermeté à ne pas accepter la contraception, à ne pas accepter l'avortement. Il faut être ferme là, mais il faut être aussi rayonnant de cette grâce que le Seigneur nous donne. Donc c'est quelque chose encore à demander et à recevoir. Vous voyez que pour être une famille chrétienne, on a besoin du Saint-Esprit. Il y a aussi le Saint-Père, il a engagé toute l'Église à quelque chose par rapport aux familles. Il a dit, et là c'est textuel, « Le travail des paroisses, comme celui des divers mouvements ecclésiaux, est très important, eux qui sont appelés à collaborer comme des réseaux de soutien et comme la main tendue de l'Église pour la croissance de la famille. La communauté ecclésiale a la responsabilité, et attention, là comme ça vous pouvez l'exiger à votre curé des paroisses ou au berger de la maison des béatitudes la plus proche, parce que c'est le pape qui l'a dit, il dit, la communauté ecclésiale a la responsabilité d'offrir un accompagnement, des encouragements et une nourriture spirituelle qui fortifie la cohésion familiale, surtout dans les épreuves ou dans les moments critiques. Pour cela, il faut être bien conscient. Le Saint-Père nous l'a dit, c'est très difficile d'être famille si on est isolé. Il faut aller chercher des frères et sœurs. Il faut aller chercher des familles sœurs, des familles frères dans la foi pour cheminer ensemble, pour nous soutenir les uns aux autres, pour trouver un accompagnement, pour trouver des encouragements et pour trouver une nourriture spirituelle. Et je termine, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à faire, à dire, mais je vais terminer avec les derniers paragraphes de l'homilie du Saint-Père dimanche. Les citations, elles sont surtout du discours qu'il a fait les samedis, parce que pour l'homilie de dimanche, on va vous l'offrir. On a une copie en français et vous pourrez prendre une copie, comme ça vous pouvez les lire et savourer tous ces cadeaux que le Saint-Père nous donne. Mais je vais vous lire déjà deux paragraphes, seulement deux paragraphes. Un sur les grands-pères. Il y a ça était très joli, il est très sympa notre Saint-Père. Il y a un artiste, un acteur italien qui a donné son témoignage de 40 ans de marié, je pense. Et il dit qu'il est connu en Italie comme le grand-père des Italiens. Et il a dit que les papis des Italiens. Mais il a dit que si lui, il était le papi des Italiens, Benoît XVI, c'était le papi du monde. Et alors, après, quelques minutes après, Benoît XVI commence à dire cela. « Je souhaite m'adresser maintenant aux grands-parents, puisque je suis le papi du monde. » Il a rajouté, ce n'était pas dans les textes officiels, mais lui, il a rajouté. « Les grands-parents, si importants dans les familles. » Alors, ces paroles, c'est pour vous. Ces paroles, c'est pour vous. Vous êtes très importants dans les familles. Ils peuvent être, et souvent ils sont, les garants de l'affection et de la tendresse que tout être humain a besoin de donner et de recevoir. Ils donnent aux plus jeunes le sens du temps. Ils sont la mémoire et la richesse des familles. Qu'ils ne soient sous aucun prétexte exclus du cercle familial. Ils sont, vous êtes, les grands-parents, un trésor que nous ne pouvons pas soustraire aux nouvelles générations, surtout quand ils donnent un témoignage des fois à l'approche de la mort. C'est un peu fort dire ça, hein, un témoignage de la foi à l'approche de la mort, mais Benoît XVI, il est un bon disciple de Jean-Paul II, il est vraiment un pape mystique, et c'est pour cela qu'il pouvait terminer son homilie comme ça. Et c'est comme ça que je vais terminer, après on va vous donner des témoignages plus concrets. La présence de l'esprit aidera les époux à ne pas perdre de vue la source et la mesure de leur amour et de leur don mutuel, à collaborer avec l'esprit pour le rendre présent et l'incarner dans toutes les dimensions de leur existence. Et c'est là qu'il est vraiment très mystique. L'esprit suscitera alors en eux le désir de la rencontre définitive avec le Christ dans la maison de son Père et notre Père. Il faut que dans chacune de nos familles, nous vivions ces ailes, ce désir ardent de la rencontre avec le Christ dans la maison du Père. Ça ne veut pas dire seulement le désir de mourir, comme disait Santa Teresa de Jésus, « Muero porque no muero », « Je meurs parce que je ne meurs pas ». C'est un peu, je dirais, une des grâces les plus particulières des viatitudes. Et comme là, on peut dire qu'on est un peu en famille viatitude, je crois que nous partageons tous un peu cette grâce, que le royaume de Dieu soit présent parmi nous. Que le ciel, ce n'est pas pour après la mort, mais qu'on peut l'écouter déjà dès maintenant. Que les saints sont nos compagnons, que les anges sont nos compagnons, que le royaume de Dieu, que la fête des noces de l'agneau est déjà là. Ça, c'est vraiment au cœur des béatitudes et je pense que c'est un peu au cœur de ce que nous vivons ici. Alors, le Saint-Père, il nous invite à cela. Hein. L'Esprit suscitera alors en eux, il suscitera en vous le désir de la rencontre définitive avec le Christ dans la maison de son Père et notre Père. Tel est le message d'espérance que, dès Valence, je veux lancer à toutes les familles du monde. Amen.
Moi, je vais vous donner un petit témoignage personnel et de ce que j'ai pu retenir. Ça a été très riche cette semaine à Valence, comme vous l'a expliqué Guilhem. Pendant ce congrès, nous avons eu différents intervenants venant de différentes parties du monde, une organisation parfaite d'un congrès du week-end en Espagne. Moi, je pourrais simplement dire quelque chose, c'est que ce qui m'a marqué, c'est que nous sommes des familles et nous devons montrer que nous sommes des familles. Et nous devons aussi avoir la conscience et l'envie de se former. De se former, Le pape Jean-Paul II, qui a été un pape de la famille, a écrit énormément de choses pour les familles, sur les familles. Il nous a laissé un héritage énorme. Et je crois qu'on est encore simplement au début de découvrir tout ce qu'il a pu écrire pour la famille. Et nous devons tous nous former, lire ce qu'il a écrit. Ce que j'ai ressenti aussi et ce qui m'a marqué, c'est qu'une famille qui ne prie pas, il y a une difficulté qui va apparaître. On nous a exhorté aussi les familles à prier en famille et à prier aussi avec les enfants. Pendant ce congrès, donc c'était le congrès de la famille, la 5e rencontre mondiale de la famille, il y avait un congrès pour les enfants, il y avait un congrès pour les grands-parents et il y avait le congrès des familles. Donc chacun avait des enseignements et des conférences. Il y avait une formation pour chacun. Il nous a été dit aussi que nous sommes des familles, nous sommes chrétiens, et nous devons aussi le montrer que nous sommes chrétiens. Nous ne devons pas avoir peur d'être chrétiens. Et que même dans la famille, avec les enfants, de pouvoir prier en famille, pour montrer que la famille chrétienne en France, elle existe, et elle est bien vivante. Voilà ce qui me tenait aussi à cœur. Et puis, je laisse la parole à...
Alors donc pour Christophe et pour moi, c'était un bonheur de pouvoir participer à ce congrès parce que bon, on va fêter un an de mariage très bientôt. Alors moi, ce qui m'a vraiment touchée, c'est en fait, bon, le congrès en tout a duré 8 jours et pendant 8 jours, il y a eu des intervenants vraiment de qualité. Et me dire, prendre vraiment tout ce temps pour parler d'une chose qui devrait être évidente, qui est la famille. Et ensuite, le nombre de fois où il a été répété, la famille est constituée d'un homme et d'une femme. Et en fait, je me suis dit, mais Seigneur, comment se fait-il que d'une chose si simple qu'est la famille, aujourd'hui, on est obligé de repenser, de se redire, mais qu'en est-il, qu'est-ce qu'il est de la famille? Alors c'est vrai que, quelque part... la famille est en crise, donc bon, d'un côté je me disais, nous on est mariés, qu'est-ce que on croit pourtant à cette famille, mais quand même l'homélie du dimanche, le Saint-Père a quand même beaucoup appuyé à l'espérance, et en fait l'arme première qu'on doit utiliser, dans laquelle on doit vivre, c'est vraiment l'amour, et là, dans son encyclique Dieu est amour, c'est vraiment baser notre famille sur ce lien-là qui est l'amour. Alors moi ce qui m'a frappé, c'est en fait la simplicité par laquelle l'humanité peut être sauvée, parce qu'en fait, il a vraiment été dit, l'avenir de l'humanité est lié à la famille. Alors Christophe a parlé donc d'une chose qui est très simple, qui est celle de la prière. Et le vendredi soir, donc le week-end a commencé par un chapelet mondial. Alors là, c'était sur la plage de Valencia. On devait être à peu près 250 000 personnes, c'était émouvant, c'était très beau. Il y avait des familles, alors il y avait des grands-parents, il y avait des petits-enfants, des tout-petits bébés. Et on avait chacun des lumignons. Et là, on a prié avec donc le chapelet. Et en sociologie, il y a une notion, alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est celle du papillon. Alors c'est une image. Admettons que vous êtes à New York, aux États-Unis, et là, il y a un petit papillon qui est là et qui vole, paisiblement, avec les petites ailes. Et on dit que le battement des ailes peut avoir une répercussion sur l'autre côté du Japon. Alors moi, je me suis dit, Seigneur, on est là, tous sur la plage, 250 000 personnes qui prient le chapelet, qui prient la Vierge Marie. Ben oui, l'humanité peut être sauvée par la prière. Et après, le deuxième témoignage qui m'a vraiment touchée, c'est... Donc, on était 15 familles de la communauté. Il y avait des familles, il y avait des parents qui ont 3 petites filles, elle attendait le 4e. Il y avait une autre famille qui avait une petite fille d'à peine 1 an. Et en fait, ils se sont déplacés, ils ont fait le voyage, donc il faisait assez chaud. On a eu assez chaud. Alors on avait de la chance parce qu'il y avait quand même du vent. Mais ce sont des familles qui ont pris du temps pour eux, qui ont pris du temps pour leurs enfants, pour venir ensemble, pour venir prier. Et alors donc, bon, le congrès était vraiment très bien organisé, mais le week-end, on est resté sur place et ces enfants, ces parents sont restés là et ont dormi. Alors bon, vous imaginez l'organisation pour des enfants, les couches, la nourriture et tout ça. Et tout le monde était content. Et dans la nuit, donc j'ai dû me lever. Tout ça pour dire qu'à 2 heures, j'ai un peu marché. Et là, il y avait des grands-parents qui étaient là, qui veillaient, qui étaient assis, des grands-mères qui disaient leur chapelet. Il y avait des prêtres qui priaient. Il y avait des enfants qui priaient au milieu de la nuit. Alors, il y avait du brouhaha parce qu'il y avait des jeunes. Et je me suis dit, on est vraiment un peuple de Dieu réuni. Et vraiment, la prière peut nous sauver. Et un petit peu plus haut, il y avait des sœurs qui étaient là, assises, une cinquantaine de sœurs. Elles étaient là, elles étaient assises, elles parlaient, donc je suis allée les voir. Et je leur dis, mais vous passez la nuit ici? Elle me dit, oui, nous passons la nuit là. Et je lui dis, vous priez? Elle nous dit, oui, nous prions. Nous prions pour la famille, nous prions parce que nous croyons que la famille est vraiment l'avenir de notre humanité. Et je suis revenue, et pareil, il y avait des enfants. Et je me suis dit, mais quelque part, bon, le concept de la famille aujourd'hui, c'est vraiment une question qui est grave, qui est importante, et en même temps, nous, simplement, là où on est, on peut vivre de notre famille aussi. Un cardinal disait, c'est très simple, vivre la famille, oui, là où on est, c'est-à-dire entre époux, entre frères et sœurs, entre grands-parents, entre oncles et tantes. Alors, parfois, on se dit, bon, on veut refaire le monde. Oui, on peut le refaire, mais simplement à notre échelle. Et si déjà, à notre échelle, on peut poser des gestes d'amour, l'avenir de la société, l'avenir de l'humanité passera par les familles, donc passera par chacun d'entre nous.
Alors, on a parlé, Sœur Jeanne d'Arc a parlé de Christine Boutin. Et, bon, c'est une députée française. Quelles que soient nos convictions politiques, chacun, c'est pas là que je veux en venir. Mais simplement pour dire que c'est une femme qui défend énormément la famille, qui est très, très à cheval sur les questions de bioéthique. Et je crois que nous sommes, bon, on a eu aussi d'autres témoignages de mouvements en Espagne qui ont réagi par rapport à des projets de loi espagnols et tout, et de voir qu'en France aussi, eh bien, dès que je rejoins un peu la formation que je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est à nous de nous former, à nous de nous interroger, à nous de nous renseigner de tout ce qui peut se faire en France aussi sur la famille, pour pouvoir être participant et partie prenante, et ne pas forcément accepter tout. Voilà.
Oui, ça. Donc, Christine Boutin a été un peu pessimiste, hein, on peut le dire. Elle a parlé d'une sorte de tsunami. Vous savez, un tsunami, cette grosse vague qui balaye tout sur son passage. Et elle disait, ben, les nouvelles lois anti-famille, là, c'est en train de tout balayer la société. Et c'est comme si on ne peut rien, on ne peut pas l'arrêter. Mais elle a dit, on peut quand même faire des choses. Il faut s'engager. Et il y a eu quand même des témoignages, vous voyez, en Pologne, par exemple. Durant le temps du communisme, l'avortement était imposé. Maintenant, l'avortement est en phase d'être interdit en Pologne. Ils y reviennent. Toute la population. Ouais. Hein? Vous savez, ils en parlent aussi aux États-Unis. Hein? Il y a un mouvement très fort pour défendre les valeurs humaines, valeurs de la famille et de la vie, qui monte. Et des États sont en train de revenir sur des lois qui avaient été données. Alors pour vous dire que c'est possible, le problème, aujourd'hui plutôt en France, mais en Europe, il y a des lois qui sont imposées sans l'avis du peuple, sans nous demander. Mais il faut lutter. Hein? Et alors on parlait de la prière, par le témoignage de vie. Mais c'est vrai que des fois, il faut un engagement politique aussi. Mais il faut qu'on se batte. C'est vraiment une bataille, quoi. Hein, c'est une bataille. Si on se bat pas, si on laisse faire, ça va pas. Hein, et c'est vrai que la première bataille, bah, c'est la prière. Vous savez que le communisme, il est tombé d'abord par des priants qui, de façon cachée, ont prié pour que ça tombe. Et c'est tombé. Hein, alors donc, il faut vraiment prendre ça à cœur. La deuxième chose que je voulais dire pour terminer, c'est que notre Saint-Père Benoît XVI, il est encore, vous dirais, aussi fou que notre Saint-Père Jean-Paul II. Hein? Il a 78 ans, 79, il était comme un petit enfant, extraordinaire, en pleine santé. Hein? Il a été partout, il a fait, c'est incroyable tout ce qu'il a fait en une journée, en 24 heures, hein, c'était incroyable. Et vous voyez, il a fait descendre une onction sur l'Espagne, quelques heures de façon incroyable. Hein? Comme je disais, plus d'un million de personnes sont réunies, c'est-à-dire, tout le monde était touché. Et je veux dire, ça c'est un signe d'espérance aussi, vous voyez. Hein, le Seigneur nous donne un nouveau berger, il n'est pas moins bon que l'ancien, mais vraiment pas quoi. Voilà. On peut l'applaudir.
Bonjour, je suis Esther, la femme d'Aguillem. Je voulais, maintenant, il m'a donné des idées, je voulais reprendre par rapport au Saint-Père, parce que j'étais très touchée, comme il disait, par les gestes qu'il a fait pendant l'après-midi de samedi. Nous étions déjà sur place en train d'attendre l'arrivée du pape qui était déjà sur Valence, mais pas sur place avec nous. Et c'est drôle parce que bon, j'ai vu qu'il était très courageux. Très courageux et il faisait pas attention aux gardes de corps et tout ça. Vraiment, il faisait son programme, pas les programmes qu'on lui avait marqués. Vous savez que la première semaine, la même semaine de la rencontre, il y a eu un gros accident dans les métros de Valence avec une quarantaine de morts. Et quand le pape est arrivé, on lui a proposé tout de suite, soit vous arrêtez à la station du métro pour prier, soit vous rencontrez les familles. Et il a dit tout de suite, non, moi j'ai fait les deux. Et il est allé à la station et il s'est arrêté pour prier. Il a rencontré aussi les familles. Après, dans l'après-midi, après avoir prié l'Angélus avec les séminaristes et avec tous ceux qui étaient autour, nous, on l'a vu de loin, mais on l'a vu. Et l'après-midi, il devait rester à l'évêché pour raison de sécurité et tout. Mais il savait qu'autour de l'évêché, il y avait des milliers de personnes qui l'attendaient. Il a voulu quand même sortir, marcher, faire à pied et se promener autour de l'évêché pour rencontrer personnellement les personnes. Et il embrassait les bébés, il embrassait les malades. C'était super de les voir. Voilà. Après, je voulais vous partager 3 phrases. Je m'excuse parce que moi je suis comme ça. Nous allons à une rencontre avec les papes et je retiens des phrases qui ne sont pas du pape. C'est ce qui m'a touchée, je vous partage quand même. Pendant la préparation de samedi après-midi, quand nous qui étions sur place, on avait des images du pape qui passait par rapport aux gestes qu'il faisait, mais on avait aussi des images de Jean-Paul II. Et oui, une des images, c'était une phrase de Jean-Paul II qui disait aux jeunes, à une rencontre avec les jeunes, il terminait sa rencontre en disant, vous les jeunes, je vous rappelle que ça vaut la peine de donner sa vie au Christ. Et je me suis dit, quand même, on est ici, nous sommes des familles, et j'écoute ces messages pour aujourd'hui. Nous sommes des familles, et ça vaut la peine d'être une famille pour Christ, pour le Christ. Voilà une phrase qui m'a touchée. Deuxième phrase. Ah oui, c'était pendant le congrès pour les familles qui a été la préparation à cette rencontre. Il y a eu un évêque qui s'adressait au papa, au père des familles, et qui a dit, vous, papa, si vous voulez aimer plus vos enfants, si vous vous rendez compte de ce qui n'a pas été bien, de ce que vous n'avez pas réussi à éduquer comme vous avez voulu et tout, si vous voulez aimer plus vos enfants, aimez vos épouses. Et ça m'a beaucoup touchée. Parce que tout vient de là, quoi. L'éducation des enfants, les enfants vont grandir dans l'amour s'ils voient l'amour entre le papa et la maman. Sinon, il n'y a pas d'amour. C'est de là que ça naît. Et la troisième phrase, c'est quand même de Benoît XVI, du pape. C'est juste un résumé. Il nous a beaucoup encouragés à porter un combat pour la vie. Aujourd'hui, nous, les familles chrétiennes, nous avons apporté un combat pour la vie. Voilà, c'était un message d'espérance pour nous tous, un combat pour la vie à porter avec toutes les nouvelles lois, surtout en Espagne et tout ce qu'on entend. Mais vraiment, il a encouragé dès le début jusqu'à la fin à porter ces combats pour la vie, parce que ça vaut la peine d'être une sainte famille chrétienne pour le Christ. Amen.
Moi, je terminerai juste en disant, donc, dans 3 ans, c'est à Mexico. Il faut qu'on y soit plus, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens de la France, vous voyez. Alors, à Mexico, c'est dans 3 ans. On organise plusieurs avions, hein. Donc, préparez-vous. Voilà.